Donner un sens à la prononciation, la présence de la voix dans l'écriture, la sensation du corps dans la voix et la parole, Valentin Gabelier s'y intéresse de près. Artiste sonore et plasticien, il a d'abord étudié à l'ESAB de Rennes et poursuit maintenant un doctorat au Japon. Depuis sa chambre à Kyoto, il nous appelle.
Bonjour Valentin.
Bonjour Angèle.
Bienvenue sur Radio Ucluc. Tu as amorcé un travail depuis plusieurs années sur la plasticité vocale et sonore et tu as poursuivi ton cursus au Japon. Et tu es en train de terminer un doctorat sur le rapport que nous entretenons au monde, à notre environnement, par le prisme de notre voix. Il me semble qu'au départ de ta réflexion, cette voix est identifiée comme un lien de porosité entre l'espace intérieur de notre corps et l'espace extérieur qui nous entoure, qui est parfois celui d'autres corps qui cohabitent. Est-ce que tu peux présenter de manière plus détaillée ce travail que tu viens d'acheminer et quel fil tu as pu en tirer ?
C'est un travail que je n'ai pas encore terminé. Je suis encore en cours d'écriture. Si tout va bien, ça devrait être terminé pour décembre. Donc je suis encore en train de tirer des fils. En gros, c'est un travail qui se présente non pas sous forme académique. Donc c'est pas un écrit académique, même si je le présente dans un cadre académique. Mais en fait, je fais un doctorat qui est basé sur la pratique. C'est un écrit qui accompagne un travail plastique et qui a une place aussi importante que le travail plastique dans mon diplôme. Donc mon thème de travail de façon globale, c'est la voix, principalement la voix humaine. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, très vite et s'est posé la question de la pertinence de l'écriture classique académique, en fait. Et quelque chose qui est venu débloquer tout ça, ça a été, en fait, je suis tombé sur le script de la série Twin Peaks de David Lynch. Et en fait, je suis retombé sur ce script un peu par hasard, et en l'ouvrant, ça m'a fait un peu un tilt. La présence des personnages, elle est hyper forte, simplement dans l'écriture des dialogues, en fait. Et le peu d'indications, les didascalies, qui sont les indications de caméra, et etc., qui apporte une force au dialogue. Et en fait, en lisant ce script, j'avais vraiment l'impression d'être en face des personnages, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait une présence qui était vraiment très forte. Et en fait, ça m'a fait tilt et je me suis dit, en fait, ma thèse, il faudrait que je l'écrive comme ça, quoi. Et donc, ma thèse, aujourd'hui, elle a une forme... Alors, c'est pas simplement un script de film. C'est un script un peu... un entre-deux, entre le script pour le théâtre et le script pour le cinéma. Pour être plus précis, c'est un script de quelque chose qui se passe dans un espace fictif qui pourrait en fait être un espace d'exposition dans lequel le spectateur est dans l'espace et les choses se passent autour. Des fois, elles sont décrites comme si elles se passaient dans la pièce. Et des fois, elles sont décrites comme si elles se passaient dans des vidéos projetées. Et à partir de là, le récit, ça devient vraiment comme un script de cinéma. Mais je joue aussi un peu de ces différentes perspectives. Les arguments que je défends dans ma thèse, ils sont joués, dits ou vécus par des voix, en fait, par différentes formes de voix. Et donc, c'est une thèse qui est en plusieurs parties, avec des modes d'écriture un peu différents en fonction des parties. Par exemple, la première partie après l'introduction, c'est un dialogue entre quatre voix qui sont jouées par un même acteur, en fait. Quatre voix qui sont situées sur quatre fauteuils différents dans un même espace, mais qui sont, en fait, comme si c'était la retranscription d'un dialogue interne, comme les réflexions qu'on peut avoir dans notre tête avec notre petite voix dans notre tête, quoi. Et voilà, il y a plusieurs parties comme ça, différentes, qui mettent en avant différents aspects de ce qui m'intéresse dans la voix. Donc il y a à la fois l'aspect psychologique, le lien avec le corps et le lien avec le langage. C'est un peu les trois grosses thématiques pour résumer, quoi. Et après, les fils que j'ai pu en tirer, c'est encore dur pour le moment pour moi de faire un point là-dessus parce que je suis encore en train de tirer des fils. Et en fait, toute la difficulté que j'ai en ce moment, c'est d'arrêter d'en tirer des nouveaux parce que c'est un peu infini. De me concentrer sur ceux que j'ai déjà en main, mais je sais que j'ai mis la main sur quelque chose qui va continuer à m'occuper pendant encore des années, quoi. En fait, tout ce que je découvre à travers ça me passionne de plus en plus, donc voilà, je suis J'ai l'impression que même à la fin de ma thèse, je serai au début de quelque chose plus qu'à l'achèvement de quelque chose.
Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire ressurgir le corps dans la voix ?
Je ne me poserai pas tellement cette question comme ça, parce que pour moi, le corps, il est présent dans la voix. Pour moi, la voix, c'est le corps, c'est la version sonore du corps, en fait. Le problème qui a été un des points de départ de ma thèse et qui a aussi conduit à la forme d'écriture que j'ai choisie, c'est pas tant de ramener le corps dans la voix que de ramener la voix dans l'écrit, en fait. De ramener la voix dans la réflexion intellectuelle, de ramener la voix dans le travail de recherche théorique. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu contradictoire. Enfin, pas forcément contradictoire, mais en tout cas, je me sentais pas à l'aise dans le fait d'expliquer des choses sur la voix et de ramener. C'est pas en fait ramener le corps dans la voix, mais c'est ramener l'attention sur le fait que la voix fait partie du corps. Et pour moi, c'était un peu. Je me sentais pas à l'aise dans le fait de dire des choses comme ça dans une forme d'écrit qui est. Totalement dénué de voix, en fait. Ce qui me dérangeait dans l'écrit académique, qui a toutes ses qualités, enfin, qui a aussi des qualités, ça permet d'exprimer des concepts de façon beaucoup plus claire que ce que je suis en train de faire maintenant. Ça permet, enfin, ça a ses avantages, mais par rapport à ce que je voulais dire dans cette thèse-là, écrire dans une forme d'écriture qui a évolué dans un sens à s'éloigner le plus possible de la voix et de l'oralité, en fait, pour plutôt exprimer des concepts de façon abstraite, pour que ces concepts ils puissent être réutilisés, réappropriés plus facilement, etc. Après, il y a plein d'avantages à cette forme d'écriture. Mais dans cette forme d'écriture, le corps disparaît complètement, quoi. Et la voix disparaît complètement. Et donc, ouais, moi, la question que je me suis posée dans cette thèse, c'est pas tant comment ramener le corps dans la voix, mais plutôt comment ramener la voix dans l'écriture, quoi.
Je pense que je me posais cette question parce qu'à un moment donné, tu parles de corps sonore. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu entendais par là ?
Mais moi, je vois la voix vraiment comme en fait une extension du corps. Ce qui m'intéresse dans la voix, c'est que là, en ce moment même, quand je suis en train de parler, il y a quelque chose qui vient vous toucher directement, quoi. Qui vient vous toucher pas au sens qui va vous émouvoir, mais qui va vous toucher au sens, enfin, qui peut vous émouvoir, même si en ce moment je suis pas en train de raconter quelque chose de très émouvant, mais qui va même physiquement directement toucher la personne qui l'entend, qui la reçoit. Et donc en fait, le fait de parler, c'est une façon de faire exister son corps dans l'espace autour de soi, en fait. Quand on entend quelqu'un parler, peu importe ce qu'il est en train de dire, même si on comprend pas ce qu'il dit, on n'a pas besoin de le regarder pour savoir qu'il est présent. Il existe par le fait qu'il existe en tant que son au moment où il est en train de parler. C'est une autre forme d'existence que celle qu'on voit par les yeux, puisque avec les yeux, quand on a quelqu'un devant nous, il est là en permanence, mais avec la voix, à partir du moment où je m'arrête de parler, je disparais entre mes silences, quoi. Donc c'est une autre forme d'existence, mais c'est quand même une présence qui est physique, quoi. Et c'est ça que j'entends par le corps sonore, c'est cette forme d'existence du corps qui est sonore, ouais.
Justement, tu parlais aussi dans ta présentation de thèse de multiplicité fondamentale de la voix dans un même corps. Qu'entends-tu par là et en quoi cette multiplicité-là est-elle importante ?
Ce que j'entends, il y a plein de choses qui rentrent dans ce truc-là. Un des aspects qui m'intéresse, que je mets derrière le terme de multiplicité, c'est déjà le fait que la voix, c'est une partie de nous qui est extrêmement changeante. Entre le matin et le soir, on n'a pas la même voix. Selon le contexte dans lequel on est, on n'a pas la même voix. Et il y a une part de ces changements dans la voix qu'on contrôle pas, qui sont liés plus à des questions physiologiques. On n'a pas la même voix si on est stressé que si on est que si on vient de faire un marathon. On n'a pas la même voix quand on chante. On n'a pas la même voix si on est les personnes avec qui on est. Moi, par exemple, qui est de la famille qui sont dans la région marseillaise. Quand je me retrouve avec eux, j'ai l'accent du sud qui se prononce de façon assez forte. Et c'est un truc qui se fait sans que je le décide vraiment. Mais, Donc voilà, selon les personnes avec qui on n'a pas la même voix. Il y a tout un tas de situations qui font que la voix n'est pas une. Et puis après, il y a aussi un autre aspect de la voix, mais qui tient plus à des questions de jeu, d'acteur, etc. Et notamment, un des aspects qui m'intéresse dans la voix, c'est tout le travail de doublage et les acteurs de voix. notamment un des acteurs de voix qui m'intéresse, j'aborde un peu dans ma thèse, qui est Mel Blanc, l'acteur des voix d'à peu près 80% des personnages des Looney Tunes aux États-Unis, donc la voix anglaise en fait, enfin la voix américaine. Je sais pas s'il y a un doublage anglais différent de celui américain. Et en fait, c'est Mel Blanc qui a créé les voix de la plupart de ces personnages. Et donc en fait, quand on regarde un dessin animé des Looney Tunes de cette époque, donc si c'est un épisode où il y a Bugs Bunny qui se retrouve face à Daffy Duck et face à Sam le chasseur, en fait ce qu'on regarde, c'est un acteur qui se parle à lui-même à travers trois personnages différents, quoi. Donc il y a un peu ce truc un peu schizophrénique de la voix, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de dessins animés. Il y a pas mal de dessins animés qui sont dont plusieurs personnages sont doublés par la même personne. Et voilà, pour moi, ça en dit beaucoup à quel point la voix, la plasticité de la voix, et à quel point elle peut exprimer des choses très différentes tout en appartenant à un même corps au départ, mais s'incarner à travers différents personnages, s'incarner. Je m'intéresse aussi beaucoup au théâtre no que j'apprends au Japon depuis maintenant 4 ans. Et il y a vraiment cette chose-là dans la voix, dans le théâtre no. Un même personnage peut être joué par plusieurs voix dans une même pièce, quoi. Elle peut être à la fois jouée par le cœur et à la fois jouée par l'acteur qui la chante, par l'acteur qui incarne vraiment le personnage physiquement, mais par moments, elle peut être sa voix peut être jouée par le cœur, qui est lui aussi présent sur scène, mais cette façon dont la voix peut à la fois se modifier elle-même et à la fois circuler entre les corps, etc. Ce qui fait que j'ai mis un peu tout ça derrière le mot multiplicité pour le moment.
Est-ce que dans cette multiplicité de voix, tu envisages aussi les voix intérieures? Et si oui, est-ce qu'elles font aussi partie du corps, ou est-ce qu'elles sont des voix étrangères au corps?
Du coup, la question des voix intérieures, c'est une grosse partie de ma thèse. C'est des voix qui ont un statut un peu particulier. Pour la plupart des gens, la majeure partie du temps, ça fait partie de nous. La voix avec laquelle on pense dans notre tête, on la vit comme étant notre propre voix. Le thème central d'une des parties de ma thèse, c'est justement les gens qui entendent des voix. Jeanne d'Arc ou d'autres, il y en a eu plein, mais en fait, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, à des degrés très variés. C'est très connu en psychiatrie, on a tendance à associer ça à la schizophrénie, etc., même si c'est pas... Depuis, dans la psychiatrie, c'est beaucoup remis en question la notion même de schizophrénie, et puis le fait d'associer ça avec le fait d'entendre des voix, en fait, c'est pas automatique. Mais il y a aussi des gens qui ont pas besoin de traitement psychiatrique parce qu'ils entendent des voix. Enfin, ils entendent des voix, mais ils vivent avec. Ils vivent très bien avec. Ils le vivent pas comme un problème. Ils vivent au quotidien avec ces voix. Donc, ça peut à la fois être vécu comme quelque chose qui fait partie de nous, et à la fois vécu comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Il peut parfois être envahissant, ce qui fait que souvent ça demande un traitement, enfin une prise en charge thérapeutique. Et après, dans ce phénomène-là d'entente de voix, ben, la question est encore ouverte. Les pistes sembleraient quand même dire que ça s'explique de façon neurologique, de façon psychologique, et que, a priori, ces voix-là sont plutôt produites par le cerveau. Et c'est un dysfonctionnement différent dans le cerveau qui fait que ces voix... produites par le cerveau ne sont pas reconnues par le cerveau lui-même comme étant produites par lui. Du coup, on les entend comme si elles venaient de l'extérieur. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est aussi que notre voix intérieure, même celle avec laquelle on pense et qu'on reconnaît comme étant notre propre voix, utilise les mêmes circuits que quand on entend des voix à l'extérieur. Il y a simplement un petit mécanisme en plus, a priori. Il y a encore, les chercheurs sont encore naviguent dans le brouillard, ils savent pas trop... Globalement, plus les neurosciences avancent, au plus on se rend compte qu'on ne comprend rien au cerveau. Donc, tout ce que disent les neuroscientifiques, c'est, enfin, toutes les raisons de pourquoi le cerveau fonctionne comme ça, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre de l'hypothèse que de la vérité scientifique pure et dure. Même si on comprend quand même déjà beaucoup de choses. Et quand on pense dans notre tête, on s'écoute en train de produire des pensées, mais on ne sait pas vraiment les pensées, comment elles sont produites. Est-ce que ce que je m'écoute en train de penser, est-ce que c'est moi qui le produis, ou est-ce que ces pensées, entre guillemets, elles arrivent et j'en suis que l'auditeur? Il y a plein de situations dans lesquelles on se rend compte qu'on est plus l'auditeur des pensées qui nous arrivent dans notre tête que le producteur de ces pensées, en fait. Et il y a notamment un chercheur anglais qui s'appelle Charles Fernieu, qui a un travail hyper intéressant là-dessus et qui travaille en fait sur les voix qu'on entend dans notre tête, mais il travaille aussi avec des gens qui entendent des voix de façon pathologique, mais il travaille surtout avec des gens qui n'ont pas de pathologie. Et son travail est très intéressant pour montrer à quel point on n'est pas si maître de nos pensées que ce qu'on aurait tendance à croire, et qu'on est beaucoup plus l'auditeur que l'orateur, en fait, de ce que nous racontent nos voix internes, en fait. Même quand c'est nos propres voix. Et je les mets au pluriel parce que là-dedans aussi, oui, la multiplicité dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi, pour moi, dans nos voix internes, avec toutes leurs contradictions et tous les disputes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, toutes les argumentations. Donc c'est aussi ce statut-là qui est à la fois c'est à l'intérieur de nous, et à la fois on perçoit, enfin à la fois ça peut être perçu comme quelque chose qui est pas tant à l'intérieur de nous que ça. Donc c'est un peu cette ambiguïté qui est justement un peu la brèche qui me permet d'aborder toutes sortes de questions après.
À ce propos, j'ai une question, car là tu parles beaucoup de l'aspect psychiatrique, mais il y a aussi la voix interne au sens de l'intuition, une voix qui nous dit de ne pas être toujours obéissant à l'autre et plutôt de croire à sa propre intuition. Je me demandais si tu t'intéressais aussi à cela dans ta thèse ou si tu l'explorais.
Non, j'explore pas trop la question de l'intuition, mais c'est une question qui pourrait venir peut-être plus tard. Parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui me font me poser la question de ça. Mais c'est un peu ça fait un peu le lien avec justement cette question de est-ce que la voix on la produit ou est-ce qu'on la reçoit, quoi, entre guillemets. Et je pense que si on doit parler d'intuition dans ces voix qui parfois nous disent des choses, ce qu'on peut mettre derrière l'intuition, c'est plus une voix qu'on aurait tendance à entendre qu'une voix qu'on aurait l'impression de produire, en fait. L'intuition, c'est par essence quelque chose qui nous arrive sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Donc je pense qu'il y a des liens, ouais, à faire entre cet aspect de la voix et cet aspect de l'intuition. Mais après, l'intuition, elle peut prendre des formes différentes que simplement une voix. Elle peut être, je pense qu'elle peut être purement physique, comme elle peut être purement visuelle. Donc c'est une question plus vaste que la voix, quoi.
Ça me rappelle que tu as aussi une pratique d'improvisation sonore qui parfois passe par la voix. Est-ce que cette pratique, ton rapport à l'improvisation, a aussi influencé ta rédaction? Tu parlais tout à l'heure de l'écriture académique que tu essaies de déplacer. As-tu envisagé le script comme quelque chose d'improvisé? Est-ce que tu te poses la question de la spontanéité dans l'écriture?
C'est une question hyper intéressante. Je ne me la suis pas posée comme ça. En fait, ce que m'a apporté ma pratique de l'improvisation par rapport à ma thèse, c'est un questionnement vraiment très physique sur le rapport à la voix. Qu'est-ce que ça fait qu'utiliser la voix en dehors du langage, en fait? Parce que dans ma pratique de l'improvisation sonore, quand j'utilise la voix ou le souffle de manière plus globale, c'est jamais avec les mots. Du coup, ouais, c'est une question que j'aborde, mais plus liée au... à l'aspect purement physique de ce que peut faire ressentir le fait d'utiliser sa voix dans un contexte qui soit pas lié au langage. Mais c'est vrai qu'intégrer le fait d'improviser au sein de mon écriture, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout pensé. Quelque chose qui m'a aidé dans mon écriture de ma thèse, c'est d'écrire des poèmes. Que peut-être certains vont prendre place dans une partie de ma thèse à la fin. Et en fait, l'écriture de ces poèmes, moi, je la vis comme de l'improvisation, en fait. Maintenant que j'y pense. Parce qu'il y a cette même forme de lâcher prise qu'il peut y avoir dans l'improvisation sonore. Et ce fait d'être ouvert à tout ce qui arrive, en fait. Et après, de rester ouvert à tout ce qui arrive et de simplement devenir un filtre de tout ce qui arrive et de faire le choix là-dedans de plutôt laisser venir cette forme d'énergie sonore plus tôt que telle autre, etc. C'est faire des choix, mais c'est rester ouvert le plus possible à tout ce qui vient. Quand j'écris des poèmes, c'est un peu dans cette dynamique-là. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a cette partie-là de l'écriture de ma thèse qui est un peu qui est un peu la partie cachée de l'iceberg de ma thèse, parce que ça m'a servi beaucoup à développer des choses, mais elle n'est pas présentée telle quelle dans la thèse, en tout cas, pas pour le moment.
Dans l'un des derniers chapitres que tu nous présentes, tu dis que la voix peut raviver les souvenirs, notamment par le chant. Dans ce cas-là, peut-on parler d'une mémoire vibratoire ?
Moi, j'aurais plutôt tendance à parler d'une mémoire corporelle, que je peux à la fois rapprocher de cette forme de mémoire qu'on a tendance à appeler la mémoire du corps, ces sensations qu'on peut retrouver quand on fait du sport, par exemple, ou parfois on a l'impression que c'est le corps qui fait les choses tout seul parce qu'en fait il a tellement intégré les choses que, je sais pas, si on joue au tennis, c'est la mémoire de notre bras qui va réagir sans qu'on ait besoin d'être conscient pleinement de ce qui est en train de se passer. Et il y a un peu de ça dans ce qui peut se passer parfois dans le chant. Et après, je le mettrai aussi peut-être un peu en parallèle à ce qui se passe. Un des sens qu'on a qui nous rappelle le plus des choses, c'est l'odorat. Et je pense que ça arrive à tout le monde de passer dans un endroit où il y a une odeur et tout à coup ça te ramène à un souvenir très précis d'un truc que tu as vécu quand tu étais tout petit. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu te retrouves face à ce souvenir que tu avais peut-être complètement oublié. Et d'un coup, il est là. Et en fait, quand je parle de cette forme de mémoire, c'est de la mémoire que peut convoquer le chant. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est vibratoire? Peut-être, parce que je pense qu'elle est déclenchée par le fait même de chanter, le fait que le corps y retrouve peut-être des sensations, parce qu'il va vibrer de telle ou telle façon, parce qu'il y a le souffle qui est engagé et qu'on sait aujourd'hui à quel point le souffle, à quel point les modifications du souffle ont des influences très fortes sur tout le fonctionnement psychique. Donc il y a le souffle qui est engagé, il y a le corps qui vibre. Je pense que c'est un tout, c'est ce tout-là qu'il y a dans la voix en fait, qui à la fois engage les muscles du corps, à la fois engage le souffle, à la fois fait vibrer, fait résonner des choses, qui fait que je pense que c'est un peu l'association de tout ça qui peut faire ressurgir des mémoires. Une des choses dont je parle dans cette partie de ma thèse qui parle de la mémoire, c'est la scène finale d'un film de Kubrick qui s'appelle en français Les Sentiers de la Gloire, qui est un film de guerre sur la guerre 14-18 en France. Du coup, c'est la scène finale et c'est un peu dur d'en parler sans spoiler le film. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Mais c'est une scène que je trouve hyper forte, hyper belle. En fait, c'est des soldats français qui se retrouvent en temps de guerre. Donc, ils sont juste. C'est une pause entre deux batailles, quoi. Mais ils se retrouvent dans un réfectoire pour voir un genre de spectacle, pour les détendre un peu entre deux batailles, quoi. Et arrive un Français tout fier de ramener une Allemande qui a été capturée, une femme qui a, je pense, une vingtaine d'années. Et donc la femme qui est complètement perdue, complètement paniquée, parce qu'elle se retrouve à être mise sur le devant de la scène face à une foule de gens qui parlent pas sa langue et qui sont là pour la huer, etc. Et donc après une introduction qui met forcément pas les Allemands en valeur, le mec qui introduit la femme... explique qu'elle ne vaut rien, mais que le seul truc qu'elle sait faire qui peut être intéressant, c'est qu'elle sait chanter et qu'elle a une très belle voix. Et donc, il lui demande de chanter. Et là, elle se met à chanter, et en fait, on passe d'une ambiance avec énormément de raillerie, et donc, en plus, donc elle est face à un parterre d'hommes qui sont en temps de guerre, donc quand ils voient une femme, il y a tout le... faire son intéressant devant les autres, etc., la railler devant tout le monde, etc., donc... On passe d'une ambiance hyper machiste à tout à coup elle se met à chanter et en fait très vite l'audience se tait parce qu'elle a déjà une voix qui est vraiment très belle. Donc il y a cet effet-là de la voix qui d'un coup en fait ramène les gens à leur humanité entre guillemets. Et c'est dans ce sens-là où je parle de mémoire aussi, c'est qu'en fait c'est cette scène est hyper belle parce que ces soldats qui vivent quelque chose qui les coupe complètement de leur humanité, qui sont face à une femme, et en fait ils oublient que c'est un être humain et ils sont en train de la traiter moins bien qu'un animal. Et en fait, à partir du moment où la voix apparaît, tout à coup ils se rendent compte qu'ils sont face à quelqu'un d'humain. Et donc elle chante une chanson en allemand, donc personne ne comprend. mais on comprend qu'ils connaissent l'air de la chanson. Et au bout de quelques secondes où on voit un peu les visages qui commencent à devenir un peu sérieux et peut-être un peu recentrés vers eux-mêmes et qui sont plus dans la démonstration machiste, etc. Et en fait, petit à petit, toute l'audience se met à fredonner la chanson en même temps qu'elle. Et voilà, on bascule, il y a ce basculement qui est dans cette scène qui est hyper fort d'une situation inhumaine de gens qui sont complètement coupés de leur humanité à cause de ce qu'ils vivent et qui tout à coup se retrouvent complètement reconnectés à la mémoire de ce que c'était qu'être vivant avant la guerre et d'être là en tant qu'être humain, quoi. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je parle de mémoire, qui apparaît, notamment avec le chant.
Au départ, quand je te posais cette question sur la mémoire vibratoire, c'est parce qu'aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, on voit beaucoup de posts qui utilisent des fréquences particulières pour appeler à certains états émotionnels. Et donc, je me dis qu'il n'y a pas que la parole qui peut stimuler notre mémoire. Il y a aussi ces fréquences dont on connaît aujourd'hui les propriétés, les stimulations. Je me demande donc quel est le lien entre des vibrations chantées, les sons vocaux, et notre état émotionnel, et comment cet état nous reconnecte à des souvenirs à travers le chant, la voix.
Ces questions de fréquence qui produisent des effets presque physiques chez les gens, c'est une approche qui est purement sonore en fait, parce que souvent c'est des fréquences qu'on peut produire avec un matériel électronique. Et puis souvent c'est les recherches qui sont faites sur ces fréquences, c'est des fréquences très précise, quoi. Et dans la voix, il y a à la fois ça, je pense, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui viennent se mêler à tout ça, par le fait que c'est produit par le corps lui-même. Et après, dans le chant, là, ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, il y a le fait d'être touché par la personne qui chante, qui peut procurer des émotions, qui peut ramener à certaines mémoires, etc. Après, quand c'est dans le cas du chanteur lui-même, là, il y a aussi d'autres choses qui se mettent en jeu. Ce dont je parlais tout à l'heure avec le souffle du chanteur qui est investi, tout le corps du chanteur qui est investi. Et après, je pense que là-dedans, il y a aussi, chez l'auditeur, il y a aussi un peu un truc d'empathie qui vient là-dedans, qui fait que quand on écoute quelqu'un qui parle avec la voix toute serrée parce qu'il est tendu, on a tendance, même inconsciemment, à devenir tendu nous-mêmes, etc. Ce qui fait qu'on est mal à l'aise face à quelqu'un qui est mal à l'aise quand il parle, parce qu'il y a un peu quelque chose une résonance qui se crée dans ce qu'on entend de l'autre. Il y a un truc au Japon qui s'appelle le hondo. Donc, on, c'est le son, et do, c'est la voix. Comme dans judo, ou comme dans, c'est le même do. Alors, je crois qu'il se focalise plus sur les voyelles que sur la hauteur des sons, par exemple. Donc pour eux, par exemple, prononcer la voyelle A pendant un tel temps va produire tel effet. Produire une voyelle, enfin produire un son qui commence par un A puis qui glisse doucement vers un O, ça va encore produire un autre effet, etc. Et je pense qu'il y a plein de pratiques qui s'intéressent à ces questions-là, mais c'est quelque chose que j'ai pas creusé de mon côté. C'est des sons qui sont. Oui, qui sont. En fait, dans cette pratique du hondo, ils mettent l'accent sur le fait de prononcer les sons. C'est le fait de prononcer les sons qui va faire en sorte que le corps va ressentir les vibrations qui vont le toucher à tel ou tel endroit et qui vont avoir tel ou tel effet selon les sons produits. Je sais que ouais, y a beaucoup d'études qui sont faites sur les effets des fréquences purement sonores sur les gens. Je ne sais pas quelles sont les études qui ont été faites sur les effets de telle ou telle fréquence produite par la voix, par le chanteur lui-même. Après, il y a tout un tas de pratiques dans le bouddhisme ésotérique, etc., où on répète des mantras pendant des heures et des heures qui produisent aussi des effets. Et quand on s'intéresse que ce soit au bouddhisme ou toutes sortes de pratiques en Inde, C'est quelque chose qu'ils ont développé de façon très poussée. Après, je sais pas, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas plongé plus que ça pour le moment.
Est-ce que selon les variations sonores de la voix qui nous rappellent un souvenir, il peut y avoir une transformation de l'interprétation de la scène vécue, de l'émotion originelle par l'individu concerné? Autrement dit, est-ce que la voix qui fait émerger un souvenir ou une sensation qui est peut-être pas tout à fait la même à cause de la vieillesse, par exemple, ou parce que l'histoire est racontée par la voix d'une autre personne, peut transformer a posteriori la lecture que le receveur fait de ce souvenir, de ce ressenti?
Ouais, complètement. Je pense que la voix, elle a un rôle à ce niveau-là qui est hyper fort dans le fait je pense qu'il y a plein de pratiques thérapeutiques aujourd'hui qui servent de ça, justement. Que ce soit dans le fait de verbaliser quelque chose, ou que ce soit dans le fait de simplement émettre des sons, c'est des choses qui peuvent faire remonter des émotions et qui permettent de les transformer. Parce que, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose que quand on discute. Ça arrive souvent que dans les discussions, on se retrouve à dire des choses qu'on n'avait même pas clairement pris conscience nous-mêmes. C'est au moment où on est en train d'en parler que les choses, elles sortent. Et en fait, c'est ce qui peut être intéressant dans une discussion. Quand on verbalise quelque chose, il sort de nous, il est à l'extérieur, on lui donne une forme, même si c'est une forme qui est vibratoire et qui donc est pas pérenne, mais c'est justement ce qui est intéressant dans la voix, c'est que c'est pas pérenne et que c'est que du coup ça peut être en permanence rejoué. Et pour moi c'est jamais rejoué de la même façon, c'est impossible d'énoncer deux fois la même chose exactement de la même façon avec les mêmes nuances d'intonation, etc. Ça peut être un travail que font les acteurs, mais pour moi il y a quand même quelque chose qui est fondamentalement différent à chaque reconvocation d'un son ou répétition d'un chant. C'est ce qui fait que, par exemple, c'est tout l'intérêt de répéter un mantra, par exemple. C'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui a changé. Et que, parce que si ça changeait pas, il n'y aurait pas d'intérêt à répéter cette chose encore et encore. Et donc, il y a à chaque fois quelque chose qui se transforme dans le fait de toute façon, et le fait de poser un son par rapport à une émotion, donc ça peut être juste un cri par rapport à quelque chose, ça peut être un rire, ça peut être toute forme de verbalisation, mais de vocalisation plus que de verbalisation. Il y a des formes de thérapie, en fait, qui se servent justement de la voix pour faire intégrer des choses aux patients, pour faire revivre des choses aux patients, mais de façon différente, ou pour lui faire revivre pour qu'il puisse s'en détacher. Il y a un rituel soufi qui s'appelle le dhikr, qui veut dire, enfin littéralement si on le traduit, ça pourrait vouloir dire la remémoration, qui est un rituel vocal. Et donc le mot remémoration, il est dans le sens se remémorer l'état dans lequel on était avant de naître, c'est-à-dire l'état dans lequel on était un avec Dieu, quoi. Donc c'est revenir à l'état originel avant de s'être incarné dans un corps qui est séparé du grand tout, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il parle de la remémoration. Et dans ce rituel, il répète pendant des heures Allah. Et en fait, ce son, au fur et à mesure qu'il le répète, ça devient presque un souffle. Puis ils font ça en groupe avec il y a le corps qui est impliqué là-dedans, qui a des mouvements d'avant en arrière, il tourne en cercle, etc. Donc il y a à la fois une implication de tout le corps et puis de la voix et du souffle. Dans ces pratiques-là, il y a des moments où il y a des grosses montées émotionnelles chez les pratiquants. C'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir discuter avec eux, j'ai pas encore pu en rencontrer. Mais je pense qu'il y a des montées émotionnelles qui sont, en fait, d'un point de vue psychologique, qui peuvent être rapprochées de remontées émotionnelles, de choses qui sont peut-être très anciennes dans l'enfance, etc., et qui permettent de libérer plein de choses. Après, ils ont peut-être une interprétation, je pense pas qu'ils aient forcément cette interprétation psychologique, parce que c'est avant tout spirituel pour eux. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le fait de matérialiser une énergie par le son, par la voix, qui transforme les émotions, qui transforme les sensations à l'intérieur du corps. Et je pense qu'aussi le fait de l'entendre rejouer, entendre quelque chose rejoué par quelqu'un, ça peut aussi avoir cet effet-là. Ouais. D'entendre ses propres mots reprononcés par quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose, ça peut être une expérience assez frappante parfois.
Dans l'introduction de ta thèse, tu écris « La voix peut être cet espace où les mots sont une matière sonore que l'on peut mâcher et pétrir. » Comment ce rapport entre espace vocal et matière sonore peut donner forme au sens, transformer à l'infini le sens ?
Ben en fait, ouais, toute cette partie de ma thèse s'intéresse à ce qui fait un peu le cœur de la poésie sonore, c'est-à-dire justement le jeu entre les mots pour ce qu'ils veulent dire et les mots pour les sons, pour leur sonorité pure. Et comment, en jouant entre ces deux aspects du verbe, on peut à la fois changer le sens des mots, on peut à la fois aller au-delà du sens des mots. Il y a des choses qui sont convoquées dans la poésie sonore qui vont au-delà du langage, qui font partie du... qui sont de l'ordre du cri ou qui parfois sont de l'ordre de... presque du chant, ou qui sont de l'ordre de... Oui, il peut y avoir quelque chose d'assez mélodique et d'assez rythmique en fait dans la poésie sonore aussi. Et ouais, la poésie sonore en fait travaille la matière vocale vraiment comme une matière quoi. Comme et ça, c'est une image que j'ai repris de Christophe Tarkos, qui lui, quand il parle du langage, il parle une expression que j'adore qui est la pâte mot. Donc la pâte comme la pâte à pain quoi. Et voilà, il a ses poèmes où il parle du langage comme étant ce truc pâteux avec lequel il n'arrive pas à s'en sortir dans sa bouche. Mais en même temps, c'est une matière qui mastique. Et il y a un peu ce rapport aussi... ce rapport buccal aussi avec les mots qui peut même être érotique, quoi, parfois, qui a quelque chose comme le rapport érotique qu'on peut avoir avec la nourriture ou quelque chose de très sensuel, quoi. Mais en tout cas, ouais, cette partie de ma thèse, elle s'intéresse à cet aspect-là, à ce que peut faire la voix au langage, en fait. Et ça, en fait, ça vient un peu en écho avec ce que je disais tout à l'heure, où l'écrit académique et la pensée académique a tendance à évacuer tout cet aspect de la voix pour qu'il n'y ait plus que des concepts et des choses qui s'énoncent clairement, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse dans cette partie-là de la... du travail vocal, c'est justement qu'elle vient ramener le corps dans tout ce qui échappe le plus à la conceptualisation, dans tout ce qui échappe, dans tout ce qui échappe aux mots, dans tout ce qui échappe à l'abstraction du langage, et il vient ramener la réalité d'un corps avec toute sa complexité, avec toutes ses subtilités. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans cette partie, c'est la partie vraiment quelque chose de vraiment charnel qui peut y avoir dans l'utilisation de la voix et ce que ça fait au langage. C'est vrai que ça peut créer des nouveaux sens, ça peut transformer les sens.
Est-ce qu'en se détachant du sens, grâce à la matière mastiquée du mot, cela peut s'adresser directement au corps émotionnel ?
Ouais, je pense que c'est ce qui est fort dans la poésie sonore. En fait, là, je suis en train de penser au scat, par exemple, dans le jazz. Et le scat, qui est cette pratique du jazz qui s'est un peu perdue aujourd'hui, mais qui est l'époque de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, etc. Il y avait beaucoup de jazzman qui faisaient du scat. Et c'est vraiment frappant quand on les écoute à quel point ils peuvent nous faire passer dans des émotions, dans des registres émotionnels hyper différents. Parce que ça convoque des aspects de la voix qu'on n'a pas du tout l'habitude de convoquer dans notre quotidien. Il y a un aspect un peu grotesque dans le fait d'émettre des sons comme ça qui veulent rien dire. Il y a l'absurde qui surgit là-dedans. Mais derrière, il y a quand même le corps qui est là et qui transmet des émotions, etc. Donc ouais, ça se retrouve aussi dans la poésie sonore. Quand ça marche, il y a quelque chose qui va au-delà du langage qui est déjà présent en fait dans la poésie. Parce que dans la poésie, ce qui marche dans la poésie, c'est le moment où on ne sait pas pourquoi, mais tel enchaînement de mots, il va nous faire traverser de façon vraiment particulière. Parfois, ça peut être vraiment le sens des mots qui vont nous toucher de façon précise, mais parfois, ça peut être vraiment tel mot qui nous aurait pas touché dans telle autre phrase, parce qu'il a été placé là à tel moment et qu'il fait écho à tel autre mot qui a été placé avant, dans toutes ces résonances, dans tous ces échos qui se passent, ça va communiquer quelque chose qui va au-delà de ce qu'était le mot au départ. Et dans la poésie sonore, c'est cet aspect-là est encore plus mis en avant et encore plus fouillé et exploré. Mais en fait, fondamentalement, c'était déjà présent dans la poésie et dans le chant en général. C'est quelque chose qui est déjà présent dans la voix, en fait.
Il y a aussi pas mal de références cinématographiques auxquelles tu fais appel, et la discussion me fait justement penser à un film de Werner Herzog qui s'appelle Where the Green Ants Dream, qui peut se traduire par « Où les fourmis vertes rêvent ». C'est un film qui présente la manière dont les colons anglais s'approprient les terres des aborigènes en Australie et comment les tribus aborigènes résistent en faisant principalement des sittings. Et les Anglais vont les forcer à signer des papiers en leur mettant sous le nez des autorisations, des soi-disant lois, un langage administratif, technique, réglementaire. Mais les aborigènes ne parlent pas la langue, donc il y a des interprètes, et peu à peu, ils arrivent à les amener au tribunal, à les faire passer en jugement, à définir quelque chose que les aborigènes ne vont finalement pas respecter. Et dans ce moment au tribunal, la parole est donnée à un moment aux aborigènes, la discussion est complètement décalée, et à un autre moment, l'un d'entre les aborigènes se lève et commence à parler, mais personne ne comprend. Les aborigènes non plus ne comprennent pas parce que cet homme a perdu tous les membres de sa tribu, et tout le monde l'appelle le muet, parce que plus personne ne parle sa langue. Ça crée un silence dans l'auditoire, car ce corps-là échappe à toute administration, à tout langage juridique. Tout à coup, on se croirait dans un théâtre débile, où les gens ne s'écoutent pas, ne savent pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Et ce corps, finalement, il parle sans pour autant avoir de sens, sans pour autant coller à des définitions. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut envisager dans le quotidien qu'on puisse être capable d'avoir des échanges qui soient au-delà de la définition et du sens ?
Aujourd'hui, je peux dire que oui. Alors, je suis pas du tout la meilleure personne pour en parler, mais il y a pas longtemps, j'ai rencontré Corinne Sombrin, qui est donc une femme dont pas mal de gens se mettaient à parler maintenant. Pour dire brièvement, c'est une femme qui a passé 8 années de sa vie en Mongolie, qui a été la première non-mongole à devenir l'apprentie d'une chamane mongole. Et la première non-mongole à être considérée, après ses 8 ans, comme étant chamane accomplie. Et elle a vécu ça quand elle avait déjà la quarantaine, je pense. Et en fait, du coup, elle a gardé sa culture française, quoi, avec un esprit assez cartésien. Elle a quand même, malgré tout, eu, en ayant l'expérience de ce que vivent les chamans, donc ces chamans en Mongolie pratiquent une forme de transe. Ils entrent en transe à l'aide d'un tambour. Et quand ils sont dans cet état de transe, ils perçoivent le monde différemment de leur état ordinaire. Et dans cet état, ils arrivent à percevoir des choses qui les aident à régler tout un tas de problèmes, dont notamment les problèmes médicaux, les problèmes de vie des gens qui viennent les voir, entre autres. Et donc elle a appris à maîtriser cet état de transe et avec son esprit cartésien, elle a quand même voulu comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet état en fait. Et du coup elle s'est mise à s'est rencontrer des chercheurs en neurosciences pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand elle rentre en transe. Ça a pris beaucoup d'années, mais aujourd'hui, elle a un institut de recherche en Belgique. Il va y avoir un programme universitaire créé à Paris 8, des DU, donc des diplômes universitaires plus ou moins sous sa tutelle, mais qui vont être gérés officiellement par d'autres gens, mais qui vont travailler justement sur cette forme de transe pour approfondir les recherches. Et donc, moi, j'ai participé à une formation dans laquelle elle nous a fait vivre cet état de transe. Donc je vais m'étaler là-dessus parce qu'il y aurait 10 000 choses à dire sur ça, mais un des aspects qui ressort de cette transe chez presque tous les gens qui rentrent dans cette transe, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le proto-langage. Le proto-langage, c'est une forme de... C'est quelque chose produit par la voix qui ressemble à du langage, mais qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas de sens défini sur les sons, quoi. Mais il y a quelque chose dans les sons qui sont prononcés, dans les enchaînements de sons qui sont prononcés, qui ressemblent à un langage. Ce que parfois peuvent faire spontanément des enfants quand ils jouent, ou des enfants quand ils essaient d'imiter une langue étrangère qu'ils comprennent pas du tout. Donc ça, c'est du proto-langage. Et dans ces épisodes de transe, le proto-langage permet de communiquer... permet une forme de communication, c'est pas du tout la même communication que par le langage, parce que c'est pas des idées qui c'est pas des idées qui s'incarnent dans des mots, mais c'est plutôt des émotions ou des intentions ou des énergies qui s'incarnent dans des sons. Et il y a quelque chose qui passe quand on pratique ça à plusieurs, il y a vraiment quelque chose qui communique par ça, quoi. Alors c'est dur de mettre des mots dessus justement parce que c'est à côté du langage en quelque sorte. C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec les gens qui étaient présents là pendant la formation. Il y a plusieurs personnes avec qui je continue à en discuter. Mais moi pour après ça, parce qu'on a parlé pendant la formation, mais le fait de Corinne Sombrin nous expliquer que utiliser le proto-langage avec les enfants, c'est quelque chose d'assez magique. Et donc il y a beaucoup de gens après la formation qui ont essayé ça avec leurs enfants. Et il y a des gens aujourd'hui qui quotidiennement parlent en proto-langage avec leurs enfants et qui y prennent énormément de plaisir et qui y trouvent des solutions qui arrivent à résoudre des problèmes qu'ils pouvaient avoir avec leurs enfants. Il y a notamment une femme qui était présente qui a trouvé que ça marchait extrêmement bien pour endormir ses enfants de leur chanter en proto-langage. Et moi-même, ça m'est arrivé de m'amuser un peu avec ma nièce qui a 7 ans, un peu spontanément, sans lui expliquer que j'allais faire du proto-langage ou quoi que ce soit. Et alors, chez les enfants, c'est vraiment magique parce qu'il n'y a même pas de questions une seule seconde, et ils rentrent direct dans le jeu, et il y a une forme d'échange qui est hyper spontanée, hyper profonde en un sens. C'est quelque chose dont que travaillent beaucoup, je pense, les acteurs, par exemple, l'intention qu'on met dans telle façon de dire une phrase ou quoi. Quand on parle, il n'y a pas que les mots qui communiquent du sens, il y a aussi toute l'émotion, toute l'énergie, toute l'intention qu'on y met derrière. Mais c'est vrai que quand on enlève les mots, donc quand on enlève les sens, et qu'il reste plus que la matière sonore, c'est vraiment intéressant de voir ce qui reste, en fait. Parce qu'il reste pas... C'est pas comme si on avait... enlever la moitié du truc, en fait. C'est comme si on avait enlevé la moitié du truc et qu'on avait remplacé par une autre moitié de quelque chose d'autre, mais qui est vraiment riche, quoi.
Justement, par rapport à ces expériences de transe que tu as eues, je me demandais si l'individualité pouvait se révéler dans la cacophonie, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une cacophonie que ça crée du sens pour chacun ?
Cette forme de transe, elle produit plein de choses, elle change plein de choses dans la perception. Et ça peut avoir des effets très différents selon les personnes, et même chez une même personne, ça peut avoir des effets très différents d'une fois à l'autre. Je pense pas que ce soit aléatoire, parce qu'il y a souvent des raisons physiologiques ou des raisons psychologiques qui font qu'il va se passer plus telle ou telle chose, ou des influences extérieures qui font qu'il va se passer plus telle ou telle forme d'expression de la transe. Mais un des effets fondamentaux de cette forme de transe, c'est une perte de la notion d'ego, en fait. Il y a cette impression d'être plus ou d'être autre que ce qu'on est d'habitude. Et donc la notion d'individualité, elle se perd un peu, en fait, pendant ces états de transe. Et alors, quand on est dans cette cacophonie, parce qu'il y a... Donc en fait, un des effets que produit la transe, c'est qu'elle nous fait produire des sons spontanément, en fait. Elle fait utiliser sa voix de façon assez spontanée, pas à tout le monde, pas tout le temps, mais quand on fait ça en groupe, il y a forcément des voix de partout. Donc ça peut ressembler à une forme de cacophonie. Il y a parfois quelque chose de... On entend une voix et on se dit « Ah, là, il y a quelqu'un qui fait un truc, ça résonne avec moi. » Ou il peut se passer des choses comme ça, des interactions très fortes. J'ai l'impression que c'est va au-delà de c'est un truc qui se passe d'individu à individu. Il y a un truc, il y a un vecteur entre les deux qui fait que ça devient un peu pas impersonnel. Ça serait bizarre de dire impersonnel aussi, parce que ça se vit comme quelque chose de très incarné. Mais en fait, on est tellement dans un état autre, dans cet état, que c'est dur de dire que ça exprime une individualité ou que ça incarne l'individualité, quoi.
La question de l'auteur dans tout ça, toi qui es auteur et aussi artiste.
Ben pour moi, c'est une grosse question parce que c'était le sujet de mon mémoire, en fait, que j'avais commencé à écrire quand j'étais aux Beaux-Arts encore en France, et que j'ai continué à écrire en rentrant dans l'école où je suis actuellement à Kyoto. Enfin, je suis plus à l'école depuis mars, mais l'école où j'étais à Kyoto, j'ai continué à écrire ce mémoire. Et le titre de ce mémoire, c'était L'œuvre émancipée. Et le sujet de ce mémoire, c'était vraiment le rapport d'autorité, dans le sens auteur, entre l'œuvre et l'auteur, en fait. Et c'était, je m'intéressais à comment une œuvre peut se détacher de son auteur, quoi. Et cette forme d'écriture que j'ai choisie aujourd'hui pour ma thèse, elle vient un peu aussi de ça, du fait qu'en écrivant à travers des personnages, à travers des mises en scène, ça permet en tant qu'auteur de mettre une distance par rapport à ce qu'on aurait tendance à dire si on est dans l'adresse directe de l'écriture académique. Et du coup, il y a des personnages qui viennent contredire ce que j'aurais tendance à dire, il y a des personnages qui sont un peu perdus là-dedans, et en fait, c'est hyper intéressant. Alors, ça pose plein de problèmes parce que ça pose des questions de style, des questions de. Donc, c'est aussi compliqué à écrire, mais c'est hyper stimulant parce que c'est ce truc-là dans l'écriture qui est un peu magique, c'est que des fois, les personnages, ils s'écrivent un peu tout seuls, quoi. C'est eux qui. Parce qu'on a planté une situation, un décor, quelque chose. Bah, tout à coup, ils vont répondre à telle phrase d'une façon dont on n'avait pas prévu, quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, et du coup, ils nous emmènent un petit peu ailleurs. Alors, quand c'est avec quand même un objectif académique, c'est dur, des fois, faut un peu leur tordre un peu le cou pour qu'ils reviennent un peu, recentrer la discussion ou quoi, mais ouais, et puis ça permet, enfin, moi, je me sens plus à l'aise avec cette distance dans l'écriture. Ça permet de parler de convoquer des choses qui pourraient être très personnelles. Parce qu'il y a des questions dans la voix que j'aborde qui peuvent être, qui touchent à l'affect, etc. Et en fait, d'écrire à travers des personnages, ça permet de vraiment de me détacher de tout ça pour vraiment travailler tout ça comme une matière. Et en même temps, il y a ce truc-là il y a des passages où j'ai l'impression qui se sont écrits plus que je les ai écrits, quoi. Et c'est une sensation que j'aime beaucoup retrouver, que ce soit dans ma pratique plastique, et en fait dans ma pratique, écrite aussi, quoi.
Pour terminer, on aimerait savoir quelle a été ta motivation à faire ces recherches depuis le Japon. De quelle façon ce contexte a été un terrain d'expérimentation influent pour toi?
Ce qui m'a amené au Japon pour faire ce travail-là, en tout cas, c'est l'approche qu'il y a globalement en Asie, mais au Japon de façon particulière, l'approche qu'il y a par rapport au corps dans les arts performatifs, en fait. Que ce soit certaines formes de théâtre, comme je disais tout à l'heure, j'apprends le no depuis 4 ans maintenant, je crois. Le théâtre no. J'apprends aussi les percussions japonaises. Et il y a quelque chose. Bon, c'est encore plus flagrant dans les percussions japonaises, mais parce que les percussions japonaises, c'est moitié de la musique, moitié de la chorégraphie, en fait. L'intention qu'on met dans le geste pour produire le son est aussi importante que l'aspect musical du jeu. Et frapper sur un tambour, il n'y a pas 15 000 sons possibles. En gros, on frappe au milieu, ça résonne. On frappe un peu sur le bord, ça résonne un peu de façon différente. Et après, on frappe sur la tranche pour faire sonner le bois du. Mais voilà, globalement, il y a très peu de sons possibles. Mais le jeu, justement, il est intéressant parce que avec cet instrument aussi minimal, il y a 15 000 façons d'aborder le fait d'aller frapper cette peau, quoi. Le corps est investi de façon vraiment particulière. par rapport à la voix, oui, on retrouve aussi ça dans beaucoup de pratiques différentes. Le bouddhisme ésotérique a une place assez importante au Japon. Et puis, ce qui m'a le plus frappé, c'est le théâtre No. Première fois que je suis allé voir du No, ça a été un peu une claque esthétique, quoi. La voix dans le No a une place vraiment particulière, à plein de niveaux. Mais ouais, le travail du cœur, et ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'un personnage peut être incarné à un moment par l'acteur qui le représente, et à un moment par le cœur, il y a quelque chose là-dedans que je trouve hyper beau. Le médiateur de tout ça, souvent, c'est le masque qui est porté sur le visage de l'acteur. Donc il y a cette distance dont justement on parlait par rapport à l'auteur aussi, qu'on retrouve là par rapport à l'acteur. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait qu'il y a une distance entre l'auteur et l'œuvre, c'est que du coup, ça laisse énormément de place au spectateur. Et c'est tout cet espace qu'on peut investir en tant que spectateur aussi qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est un peu pour ça que je suis venu au Japon. Et c'est un peu. Et je crois qu'il y a une bonne partie de ma thèse et de mon travail plastique qui a été beaucoup influencée parce que j'ai appris tous ces aspects-là de la culture japonaise. Même si je m'en sers pas de façon directe, ça m'intéresserait pas de faire du no contemporain, par exemple. Mais c'est quelque chose qui me nourrit de façon plus sous-jacente, quoi. Mais en tout cas, qui me nourrit beaucoup.
Tu n'as pas parlé de la langue, alors que depuis qu'on te connaît, tu as toujours appris à parler japonais. Je suppose que ça aussi, ça a dû être quelque chose qui a dû te nourrir.
Ça a été un des aspects qui m'a d'abord séduit au Japon, c'est la langue, la sonorité. Il y a une rythmique assez particulière. Et en fait, il y a aussi le fait qu'il y a assez peu de sons en japonais. Il n'y a pas de son. En fait, en tant que français, il y a presque aucun son qu'il n'y a pas dans la langue française. Il y a quelques sons, il faut un peu choper le coup, mais c'est pas du tout aussi compliqué que d'apprendre le chinois ou l'arabe. Au niveau de la structure de la langue, c'est une langue qui est construite complètement à l'envers de la nôtre. Ce qui fait que quand j'ai appris le japonais, j'avais l'impression que mon cerveau était en train de faire un grand écart forcé. En permanence. Alors, au début, ça peut être assez inconfortable. Oui, j'ai l'impression d'avoir découvert une partie de mon cerveau en apprenant le japonais, quoi. Ça fait pareil. C'est une gymnastique complètement différente de la nôtre. Et du coup, ça commence maintenant. En fait, ça a commencé il y a quelques temps à me nourrir aussi dans mon travail un peu d'écriture, notamment dans quelques poèmes que j'ai écrits un peu sur le principe de la poésie sonore en japonais. Mais du coup, quand j'écris en japonais, ça devient même des poèmes visuels, parce qu'en fait, en écrivant avec les caractères japonais, il y a tout un jeu d'écho au niveau visuel qui est juste hyper stimulant. Mais je me suis servi aussi il y a peu de temps, j'ai écrit des poèmes qui étaient en fait la traduction en français de ces poèmes en japonais. Du coup, quand on les écrit en français, ça, on perd la connexion qu'il y avait entre les caractères, par exemple. Mais ça vient créer un sens en français, enfin ça vient créer des poèmes que j'aurais jamais pu écrire spontanément de moi-même. Et ça vient mettre en relation des mots et des images que j'aurais pas fait de moi-même, mais qui, en fait, quand elles arrivent, elles sont assez surprenantes. Coquillage, peinture, outre-mer, torture de mer, jeu-œil. La mer, œil. L'œil, coquillage. Le coquillage est un pays étranger. Le coquillage est un autre pays. Huître volante. Écriture et mots frits dans les perles. Huître ailée. Iris beurré. Acheter des coquillages. Ouvrir les coquillages. Séparer la pierre et la fleur. Ouvrir en deux le mal agréable. Rendre le coquillage. Parole en stéréo dans les vagues qui s'enroulent.
L'honneur est rond, obèse. Ça bouchonne sur l'honneur accumulé. En résidence sûre, l'honneur en vacances se balade dans les limites. L'honneur est immense, est difficile, est individuel. Il est difficile d'en avoir la mesure. L'honneur est circulaire, circule, il est limité, sa limite est kilométrique, sa limite est spatiale, son espace est contrôlé, son rayon est attesté, ses motifs sont impérieux. À l'intérieur, on peut errer 1 heure, puis 3 heures, puis entre 6 heures et 20 heures, puis... L'honneur est limité, est libéré. L'honneur est dépassé, est enterré. On peut creuser l'honneur pendant 1 heure, on peut voler dans l'honneur pendant 1 heure, mais on ne peut pas en sortir, on ne sort pas, est un combat de coq, on n'en sort pas, est un combat de couilles, on sort, paf, le képi contrôle, on court, pan, la défense est impérieuse, l'honneur est défiguré. L'honneur est bondé, est une conduite, est public. L'honneur serre le ventre, serre une nausée à un prix imbattable. L'honneur est sur le tapis, roulant, un produit, en situation de « j'achète, je paie, je prends, j'ai ». L'honneur est encaissé, est un effort national, est une jalousie, est un privilège, est une médaille, est légion, est dépossédé, insensé, est distribué, est dans une chaîne, est une valeur marchande, est enchaîné, est aliéné, est monstrueux, est déchaîné, enragé, essoufflé, épuisé, évidé, creux. L'honneur est affamé, erre dans les rues, la main tendue. Tous réunis dans les règles, tous réunis dans le soin, tous réunis dans la peur, tous réunis dans l'honneur, tous unis dans l'horreur, tous réunis dans l'attente, tous unis dans l'inégalité, tous unis contre la vie chère, tous réunis dans les slogans, tous réunis dans la télévision, tous réunis dans les décisions, tous réunis dans les mesures, tous unis dans la démesure, tous brunis au soleil, tous dorés la pilule, tous armés dans l'honneur, tous unis dans l'amour, tous réunis dans les réseaux, tous unis dans l'invisibilité, tous démunis dans la rue, tous démis de leurs fonctions dans l'urgence, tous démantelés, tous fermés, tous bilans déposés, toute culture reportée, tous désengagés dans les guerres, les marchés, les génocides structurels, toutes démenties les illusions, toutes démontées les promesses, tous unis dans les mots du président, tous réunis dans la fracture, tous pour un monde meilleur, ah ah, tous pour un monde pour changer, tous pour la paix pour changer, tous unis dans la paix, ah ah, pour changer, tous unis dans l'amour, allez, tout le monde se regarde, tout le monde se regarde, tout le monde regarde, le voisin vérifie, l'inconnu contrôle, la surveillance est dans chacun. Chacune, l'autre n'est pas fiable, l'homme est violent, les dirigeants nous la mettent, l'homme est viol, l'autre est un doute, je suis un doute, je suis un autre douteux, je est douteux, je n'est pas libre et lié, je est forcé de se rendre, l'évidence est médiatique, la force est généreuse et pour le bien, la force est un rapport, la force de l'ordre est en rupture, la force est monopolisée, est militaire, est divisée, est déséquilibrée, l'inégalité est lacrymogène, le dialogue est une fanfaronnade. Devant la mer, sur le sol ferme en béton, retenu sur l'honneur à terre, pas l'argent pour quitter, l'autorité est administrative, pas assez d'honneur pour être reçu. Sur la vie de sa mère, l'autre n'est pas fiable, l'inconnu contrôle, l'incertitude l'accueille. Dans l'argent, dans le pouvoir, dans le « tu te tiens tranquille », dans le « attends, là, tu bouge pas », dans le doute, dans la peur, dans la voix, dans l'œil, dans le ventre, dans les côtes, dans ta gueule. L'honneur sur la vie de ma mère, je vais l'arme dans la main, l'arme est en mouvement, l'arme est sur le poing, l'arme est accablante, l'usage est suffocant, la vérité est étouffée, l'intérêt est général et participatif, la domination est morbide et silencieuse, le poing est serré, le doigt est pointé, la gorge est nouée, la convocation est judiciaire, est une sommation, le service est public, la culture est oubliée, la défense est ministérielle, est un gouffre, l'art est oublié, l'intérêt est général, est disciplinaire, le vivant est oublié, la vie est employée, est au travail, n'est pas à ce qu'elle fait, la participation est une mission, est honorable, les déplacements sont brefs, la limite est quotidienne, le quotidien est d'une heure, l'activité est individuelle, le physique est personne. L'exclusion est sportive. L'exclusion est collective. L'exclusion est dans un rayon d'un kilomètre. L'exclusion est de toute proximité. L'exclusion est avec d'autres personnes. La promenade est regroupée dans un même. Le même est un domicile. Le domicile est de compagnie. Les besoins sont des animaux. Le handicap est une situation, est assuré. Le handicap ne peut être à distance. Le handicap est gratuit, est un privilège dans les queues. Les activités demeurent autorisées, dans la limite des stocks disponibles. Les mesures sont générales. Les décisions sont insolentes. L'épidémie est en l'état, est somatique. L'épidémie est un contre, est intenable. L'épidémie est encadrée, est dans le cadre de l'urgence, est dans le cadre du sanitaire, est dans les déplacements entre, est liée au motif suivant, est un motif de déplacement, est une activité professionnelle, est un établissement de formation, d'enseignement, de déplacement, est un concours, est certifié sur l'honneur, est l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, est une garde d'enfants, est un handicap de situation, est la promenade avec les seules personnes regroupées, est l'occasion de leurs activités périscolaires, est à titre informatif, est dérogatoire, est décrété, est généré, est téléchargé, est numéroté, est au téléphone, est en application, est un motif, est un mobile, est une livraison, est une commande, est une erreur, est organique, est solide, est expérimental, est adapté, est destructrice, est humaine, est viral, est un problème, est une solution. Dehors, par terre, là, la femme assise sur son carton attend que ça tombe. Sur son honneur depuis ce matin, la main est tendue et pendue et, pièce par pièce, gagne de la valeur. Mais pas de quoi attester, pas de quoi lustrer la belle vie saine que chacun veut. Pour son prochain, aha, à la prochaine humanité, bossue, bancale, bienfaisante. Sur la vie de cette mère, j'aimerais que l'avenir soit plus proche. Bossu, bancal, mais bienfaisant.
Après ce poème de Mathis Berchery, qui joue avec l'ordre du discours et interroge le sens de l'honneur, comme mot et comme comportement, voici La parole boue, une ébullition autour d'une question commune, autant d'idées collectées, de paroles données, comme des petites bulles qui popent à la surface du quotidien. Ce mois-ci, si vous pouviez inventer une loi, laquelle cela serait ?
La première loi qui me viendrait à l'esprit, ce serait une loi pour aider à rééduquer les enfants et les nouvelles générations, qui imposerait dès la plus jeune enfance une participation dans l'année qui pourrait être plus ou moins longue suivant les âges, c'est-à-dire que enfant, ça pourrait être une demi-journée, une journée, sur une espèce de service civique. On aurait des obligations vis-à-vis du respect de la nature, des autres personnes, des autres cultures. Donc ça pourrait être, chez les plus petits par exemple, on fait déjà ça un petit peu, nettoyer des plages. Ça pourrait cumuler par exemple des activités qui existent déjà à des choses qui sont reprises dans le scoutisme. Ou ça peut être aller aider des personnes âgées ou des personnes handicapées. Parce que je trouve que les enfants n'ont pas toujours conscience, et les adultes du coup, quand ils grandissent, n'ont pas toujours conscience des autres, du respect, de l'entraide. Donc je verrais une loi qui, par contre, par exemple, à l'adolescence, pourrait faire, en remplacement du service militaire qui a existé à une époque, une année ou 6 mois, une période assez longue, d'engagement vraiment... Pendant 6 mois de sa vie, partir, par exemple, ça pourrait être à l'étranger pour faire quelque chose de médical, faire de l'aide médicale. Ça pourrait être en France, restaurer quelque chose ou nettoyer un site naturel. Ça pourrait être des choses comme ça. Des petites sessions, petits, et puis plus on grandit, jusqu'à l'âge adulte, faire quelque chose qui aboutisse sur une longue période de 6 mois, 1 an. C'est pour ça, pour que ce ne soit pas trop violent, peut-être commencer dès l'enfance à sensibiliser les enfants, à donner de soi, de sa personne. Moi, j'ai l'impression que ça ferait des adultes plus engagés, moins égoïstes, plus respectueux, plus conscients et plus sains quelque part. Parce que je trouve que quand on s'occupe des autres et qu'on est dans le partage, on se rend service, on devient meilleur et en meilleure santé. Donc je trouve que ça équilibrerait beaucoup de jeunes qui, parfois, aujourd'hui, ne savent pas trop comment se placer, où se placer, grandir. Peut-être ça responsabiliserait plus tôt aussi, de prendre conscience de tout ça. Donc ça, ce serait pour moi la première loi qui vraiment pourrait modifier complètement la nature humaine et tout ce qui nous entoure, du coup. Voilà.
Si je faisais une loi, ça serait l'interdiction de couper des arbres pendant la période de nidation.
Qu'on abolisse la propriété.
On pourrait réfléchir à différentes manières d'occuper l'espace et de l'habiter, que ce soit dans les logements ou que ce soit aussi étudier ensemble à partir de quel moment on décide d'une frontière. Pourquoi est-ce que un arbre serait plutôt du côté suisse ou du côté italien, alors qu'en soi l'arbre il est juste arbre. Et ouais, s'il y avait plus de propriété, je pense qu'il y aurait plus non plus ce truc de la peur de l'autre, parce qu'on a peur que l'autre rentre chez soi, nous vole des trucs. Alors qu'en fait, je pense que ça n'existe pas à partir du moment où on pense plus la propriété. Ça voudrait dire aussi que après, les gens finiraient par juste décider ce qui est vraiment bien pour eux à l'instant T et ce dont ils ont besoin, vraiment. Je pense que si tu sais ce dont tu as besoin et s'il n'y a plus de propriété ou plus d'argent ou plus de frustration pour t'empêcher de l'atteindre, eh ben, y aura un équilibre comme ça, juste de genre j'ai besoin, je fais. Et dans ce cas-là, les gens auraient plus peur de la non-propriété des autres quand eux-mêmes sont propriétaires.
Ouais, je pense que dans le futur, on trouvera ça déplacé de tuer des animaux, surtout pour les manger. Et je pense qu'il faudrait inventer une loi pour en finir avec ça. En fait, ma loi, ça serait d'interdire le meurtre animal. Le fait de tuer un animal soit considéré comme un meurtre au même titre que sur un animal humain, quoi.
Ce serait une loi qui prononcerait plus pour le respect. Où le manque de respect serait moins toléré, du moins. La politesse, le savoir-vivre, je pense qu'il faudrait que ces plus d'impact soient plus mis en avant. Peu importe d'où on vient, peu importe la classe sociale, peu importe l'éducation, je pense que le respect envers une personne devrait être le même. Que ce soit en physique, ou notamment sur les réseaux sociaux, avec l'anonymat et tout ça. Bah après, je pense adopter quelque chose, je sais pas, il faudrait que ça vienne des gens, il faudrait leur soumettre des idées, pas leur imposer quelque chose, mais leur faire comprendre que peu importe qui on est, en fait, on a le droit au même respect. Moi, par rapport à mon boulot, pour eux, je suis personne, quoi. Ouais, après, je sais même pas comment on pourrait mettre ça en place, ouais, c'est vrai. Parce que ça pourrait être vraiment très radical et très... Mais oui, puis non, ce serait pas une loi dans le sens où si vous le faites pas, on vous réprimande. Mais une loi où on va mettre en place quelque chose pour faire comprendre aux gens que le respect ou que... Enfin, ça peut plus se passer comme ça, en fait. Que le harcèlement, non, ça peut plus continuer.
Moi, je pense qu'avoir plus de bienveillance dans nos sociétés, déjà, ça ferait un grand pas. En tout cas, moi, ça me permettrait d'avancer avec plus de courage et plus de confiance. Faire davantage collectif. Je pense que typiquement, ce type d'espace, un espace comme Europolis, nous permet de faire collectif et nous permet de créer des zones safe, des zones de bienveillance qui, en tout cas pour ma part, moi, c'est ce qui me permet de m'élever en tant que citoyenne et peut-être, ben voilà, avec cette énergie-là, d'avoir envie de porter un monde de demain, un monde de demain qui serait meilleur, quoi. Mettre à plat nos pratiques, peut-être plus d'horizontalité dans nos réflexions, oui. Peut-être qu'on, grâce à ça, on arriverait à créer de nouvelles zones de contact et quelque chose, ouais, peut-être de plus doux, de plus bienveillant, de moins clivé.
Alors une loi, moi la loi qui me tiendrait à cœur, ce serait justement de supprimer l'argent, pour que les gens retournent au troc, à l'échange, mais de biens ou de services, pour limiter que l'argent dirige le monde. Ça supprimerait beaucoup de grands groupes qui nous dirigent. Voilà, ça retournerait à des choses beaucoup plus simples et plus d'échanges entre les êtres humains. Voilà, sans parler d'argent et de tout acheter.
La loi de danser une heure par jour.
On s'éclate, on met de la musique à fond.
On s'impose une heure où on danse des mouvements qui partent dans tous les sens. Ça peut être aussi des chorégraphies qu'on a envie de s'inventer soi-même. Une heure par jour, peu importe le moment de la journée, de la nuit aussi.
En fait, je pense que si j'avais une proposition de loi à faire, ce serait de rendre les psychothérapies accessibles, soit gratuites, soit remboursées, pour toutes et tous. Donc, aussi bien pour les gosses que pour les adultes. Cette réflexion, elle part du fait que j'avais lu un livre de Milan Kundera, qui est un auteur tchèque qui vit en France. Et c'était dans L'insoutenable légèreté de l'être. Et en fait, il parle du concept de litost, donc qui est un mot qui existe en tchèque, mais qui n'existe pas en français. Une litost, c'est quand tu emmagasines, mettons, des frustrations, de la colère, des sentiments d'injustice, et qu'en fait, tu vas te venger sur l'autre, donc a priori sans raison directe de ce que l'autre t'a fait, mais juste parce que toi, tu as tous ces sentiments qui sont bloqués, emmagasinés, et qui vont en fait juste se répercuter sur l'autre. Du moment où j'ai même lu ce mot, j'ai commencé à tout regarder sous le prisme de la litost. L'histoire, un peu l'histoire du monde, des dirigeants et des dirigeantes, même si elles sont beaucoup moins nombreuses. Et où, bah, typiquement, j'avais écouté un podcast sur Staline. Et en fait, bah, en effet, hein, il a eu une enfance affreuse. Et où tu te dis, mais oh, la litost qui a fait mais des millions de morts, quoi. Et où en fait, je me dis que... si on apprenait tous et toutes à gérer nos sentiments, à se responsabiliser émotionnellement, à libérer en fait tout ce qui est colère, frustration, la peur, les sentiments d'injustice, si on apprenait tous et toutes à s'en libérer, eh ben, je pense que d'une part, il y aurait moins de personnes ultra-violentes qu'on mettrait en tant que dirigeantes. Il y aurait moins de personnes comme ça, d'une part, et je pense que nous aussi, nos choix en tant que personnes qui votons seraient dirigés autrement. Donc en fait, on arrêterait de voir la violence comme un signe de force, tu vois, ce qu'on nous vend en tant que force aux yeux de la société, qui est en fait un énorme déni, et c'est à qui arrivera le plus à rester en déni toute sa vie, et à écraser l'autre. Et où je pense qu'en fait, vraiment, si on apprenait même à des gosses, en fait, si on leur donnait un espace pour se libérer de colère, de maltraitance, de tout ça, et même adulte, en fait. Mais je pense qu'on aurait une société vraiment différente, on ferait des choix qui seraient moins motivés par la peur, par la colère, par la frustration, et qui seraient plus motivés par de l'envie, du partage, de la collaboration, et parce qu'on se sentirait moins en insécurité partout, tout le temps. Donc voilà, moi, je pense que si j'avais une proposition de loi à faire, ce serait ça, et ce serait... rendre la thérapie accessible, pas que le médical, donc pas que la psychiatrie, mais vraiment la psychologie, accessible à tous et toutes, pour qu'on puisse tous et toutes être plus responsables émotionnellement. Et je pense vraiment que ça changerait beaucoup, hein, la manière qu'on a de vivre ensemble.
Faire société, la parole se termine ici. Radio UCLUC sonne le début de soirée. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette première émission que nous en avons pris à lui donner corps. Nous remercions chaleureusement tous les intervenants, intervenantes, contributrices et contributeurs de cette première édition sur La Parole, qui l'ont nourri de leur expérience, de leur savoir, de leur temps et de leur cœur. Un grand merci également à la maison d'édition POL pour avoir accepté de diffuser les lectures des textes de Christophe Tarkos.
Si vous souhaitez participer à La Parole Bout, aux chroniques littéraires ou que vous êtes DJ ou artiste sonore et souhaitez partager vos créations dans la prochaine émission, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse collectif.ucluc@gmail.com. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission à l'infini, la partager durant un mois, à l'issue duquel elle disparaîtra pour laisser place à la suivante. Très belle soirée sur
Radio UCLUC.
À bientôt.